Open Bar Tasse.
Open Bar Tasse.
Open Bar Tasse.
Open Bar Tasse. Open Bar Tasse.
Open Bar Tasse.
Open Bar Tasse.
Open Bar Tasse. Bonjour et bienvenue à toutes et tous, c'est Open Bar Tasse et ce soir on va entrer en transe. En tout cas on va essayer puisque c'est la thématique sur laquelle on a transpiré ce mois-ci.
Ouais.
Sans transition, je vous présente notre équipe du jour. Elle est là pour nous rappeler que la transgression est souvent le moteur de tout. Christelle, tu vibres pour qui aujourd'hui?
Oh là là, oh, vous allez voir. Surprise.
Okay. Surprise, on va avoir plein de surprises ce soir. Je reprends ma phrase, c'est l'auteur lui-même qui se transfigure quand Émilie approche. Bah. Qui est l'heureuse élue ce soir, Émilie?
Un petit peu de gentelet, beaucoup d'amour et beaucoup de danse macabre, vous allez voir.
Ça promet.
Ouh, ça promet.
Alors, la transe, c'est de l'art ou l'art, c'est de la transe? Nat, est-ce que tu peux trancher?
Bah, pas tout de suite, mais je vais vous parler de chamanisme.
Chamanisme, bah, ça tombe bien.
Voilà.
Il fallait cocher cette case-là. L'ami Ben également au micro ce soir avec une invitée exceptionnelle en transit à Florac aujourd'hui.
Incroyable, je suis tellement ravi d'être là. Salut tout le monde.
L'ami Cahouette.
J'ai ramené Véro Dombal.
Voilà, on est vraiment impatients là.
Waouh.
Le roi du transistor ce soir, c'est l'indispensable Léo. Salut Léo.
Et salut, salut. Je suis en impro.
C'est bien,
ça va le faire.
C'est bien, c'est bien.
Et le transfuge qui a abandonné son canapé pour la soirée, c'est moi, c'est Marc. Alors, entrée en transe, ce soir, c'est Open Bar Tasse. Émilie, tu nous guides? 4 and 3 and 2 and 1.
Salut à toi, Bartas, auditrice, auditeur, fidèle à notre émission. L'hiver s'installe dans notre jolie contrée, ça y est, on se pèle le derche, on se caille les miches, ou comme on dit chez moi, ça meule. C'est bientôt les fêtes, la convivialité familiale, les kilomètres de route pour manger une dinde, et comme tout bon néo qui se respecte, la famille t'a plus de 11 heures de route. Bientôt les repas de Noël interminables, l'ennui peut-être qui pointe son pif entre le foie gras et la bûche, les discussions houleuses, une huître dans la bouche, le tonton ou la tata, oh non mais c'est terrible, hein, avec la crise on ne peut plus rien faire. Hein. Mais faire quoi Jeannine, hein? Tout ce que vous faites, c'est vos courses dans l'hyper grand, immense supermarché du coin. Le bazar, c'est le Titanic, avant ou après l'effondrement. Au moins dans Titanic, il y a des robes en taffetas, DiCaprio et des perles de rivière, pas des knacky balls sauce gouda intense, des Monster Munch goût cheesy crazy, des chips à la peau de poulet déshydratée et resséchée au paprika des Andes. Se moque la meuf qui, quand elle va chez Biojour, chiale parce que son panier dépasse les 8000 balles avec une courge et du pain. Voilà. Mais bref. Après, vous rentrez chez vous, Jeannine, dans votre grande baraque, portail électrique, caméra de surveillance et écran plasma. Alors arrêtez. Vous n'êtes pas tous les soirs le poing levé sur les barricades, les gavroches du carrefour. Là-dessus, Myriam, la belle-sœur, réplique. Oh, c'est sûr que tout devient difficile aujourd'hui, hein? Mais qui, mais quoi, Myriam? C'est quoi le tout devient difficile? Les bombardements, les fracas de la terre, les jeunes de 17 ans lynchés par la police? Ah non, on ne peut plus se garer. Ah oui, oui, oui. C'est sûr que là, c'est important. C'est certain que c'est une crise majeure, le stationnement à Montbéliard. Il y a Gaza et Montbéliard, c'est bien connu. Les deux conflits du siècle. Heureusement que ma famille n'habite pas à Paris, ça serait Hidalgo à tous les étages. Mais repartons se noyer dans le monde d'or. Là-dessus, le cousin de mon âge, hein. Oh bah, oh, à l'époque, on savait rigoler, hein. Dit le mec qui s'est arrêté aux inconnus et aux nuls et qui ose encore et toujours parodier la cité de la peur. Astérix, Mission Cléopâtre. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. La pub Milka et la marmotte qui met le chocolat, etc., etc. Le cousin était beau gosse au lycée. Hein. Aujourd'hui, toujours le même style, mais ses t-shirts lui serrent un peu trop la panse. Il s'est empâté comme un bon gros Jean Bonneau. Joyeux Noël, il y a de quoi bouffer. Pensant toujours qu'il n'a rien perdu de sa superbe. Dur, dur. Et le tonton? Non, mais c'est vrai. Aujourd'hui, on ne peut plus rien dire. Hein. Mais dire quoi à propos de qui? Comme si le gars faisait partie de la fine fleur de l'écriture, des cercles littéraires de Madame de Scudéry. On sait ce que ça signifie, on ne peut plus rien dire. On ne peut plus se moquer des Juifs et des Arabes tranquillou avec son bob cochonou, comme dans les années 70, torché dès le midi en touchant le cul de la secrétaire qui n'a rien demandé.
Oh, ça va, hein, c'est pas méchant. Ah bah, c'est sûr. Hein.
Non, mais Jean-Louis, on en a juste marre de ton humour de schnock dépassé. Allez, c'est parti en voiture, Simone. C'est la fête foraine, on tire dans tous les sens son lot de doléances façon Fab Caro. 14 juillet, feu d'artifice, c'est le spectacle, ouais. Et de 1, oh, c'est comme le rap, hein. C'est pas de la musique. C'est pas de la musique, c'est pour les sauvages. Ouh, c'est parti, on descend, tout chou, sans les mains. Et une autre, non mais il faut dire que De Gaulle, hein, il savait tenir les Français, il avait de la gueule, hein. Et encore une autre, oh, moi je te remettrai le service militaire pour réveiller ce tas de glandeurs. Et encore, encore, oh, une petite guerre. Ça ferait pas de mal. Une autre rafale, c'est parti. Guignol, guignol, ouais. Les jeunes, ils sont toujours sur leur portable. Ah tiens, je t'ai pas montré sur Facebook la photo du petit dernier. Regarde, j'ai fait un avatar de ma gueule. Arrêtez, vous l'avez tous et toutes, cette personne de votre famille qui commande tout ce que vous faites sur Facebook. Mi-mignonne, mi-gênante, à base de cœurs, de roses, d'émoticônes, personnages ou autres, bien trop grands par rapport à la publication. Et ça continue vers l'infini au-delà. Eh, moi je veux que mon gosse il mange de la viande tous les jours, hein. Je paye pas pour qu'il bouffe des merdes de soja chinois, hein. Allez, tiens les Chinois, entrent dans la danse, yes. Enfin bref, c'est dur, hein. Tout ça me met en transe. Je tiens à dire que non, ce n'est pas directement ma famille. Pour les auditrices et auditeurs qui ne voudraient plus me côtoyer, c'est un portrait de la famille de potes, de proches ou autres. Des années d'analyse cachées derrière son verre de vin. Mais Noël, c'est encore loin. Stoppe-moi les clochettes, Léo. Aujourd'hui, c'est la Saint-Nicolas. Non, mais c'est vrai.
Bisous, Jimmy.
Ben oui. L'année dernière, justement, Jimmy nous avait apporté des Saint-Nicolas à manger. Où es-tu? C'est lui, le vrai Père Noël. Nicolas, pas Jimmy, quoique. Le Saint-Nicolas, c'est le saint patron des enfants et des célibataires. Allez, la Lozère, pas de panique. Pour vous aussi, ça va grouver ce soir. Et moi, j'ai bien envie de vous faire voyager, non pas du côté de la Lorraine ou des Vosges, mais plutôt de l'Alsace, où il est également fêté. Alors là, c'est un changement d'ambiance totale. Je voudrais vous parler d'une histoire macabre et tragique par rapport à ce que disait Myriam, la belle-sœur de ma famille imaginaire. Avec la crise aujourd'hui, on ne peut plus rien faire. Je voudrais vous parler de l'épidémie de danse de Strasbourg, une connexion directe avec notre thème, entrée en transe. Au début, ils ne sont que quelques-uns. Dehors, dans la chaleur de l'été, ils ondulent sur place, agitent les bras, les vêtements trempés de sueur et dansent ainsi jusqu'au lendemain. Ils continuent pendant des jours, c'est à peine s'ils s'interrompent pour s'alimenter ou se désaltérer, indifférents à la fatigue croissante et à la douleur de leurs pieds meurtris. Le temps que les autorités interviennent, ils sont des centaines à se secouer avec la même frénésie. Non, ce n'est pas une rave party qui se termine généralement dans un champ en pleine campagne. Il s'agit en fait d'une des épidémies les plus curieuses jamais considérées par l'histoire. Elle a eu lieu il y a 500 ans dans la ville de Strasbourg. C'est là que pendant 3 mois, alors qu'il règne une chaleur infernale, des centaines de gens sont pris d'une irrépressible envie de danser. Et de danser sans s'arrêter au point que certains s'effondrent et meurent sur place devant une foule de badauds horrifiés. Strasbourg. Été 1518, dans les rues étroites de la ville et sur les places, des dizaines de personnes commencent à danser frénétiquement au rythme des tambourins, violes et cornemuses. Mais l'atmosphère n'a rien de festif. Les scènes sont même terrifiantes, écrit l'historien de la médecine John Waller. Les femmes, hommes et enfants atteints de cette étrange manie dansante crient, implorent de l'aide, mais ne peuvent s'arrêter. Ils sont en transe. Ils ont le regard vague, le visage tourné vers le ciel, leurs bras et jambes animés de mouvements spasmodiques et fatigués. Leurs chemises, jupes et bas trempés de sueur sont collés à leur corps émacié, décrit toujours John Waller. En quelques jours, les cas se multiplient comme se répand un virus, semant la peur et la mort dans la cité alsacienne. Jusqu'à 15 danseurs succomberont chaque jour, selon un témoin de l'époque, victime de déshydratation ou d'accidents cardiovasculaires. Ils dansent, désespérés, sans pouvoir s'arrêter, comme s'ils étaient possédés. C'était il y a 500 ans et Jean Tellet, écrivain, revisite cet épisode en mêlant faits historiques et romances macabres. Madame Trophéa, le vendredi 12 juillet 1518 vers midi, sort de chez elle, rue du Jeu des Enfants, avec son nourrisson, va jusqu'au pont du Corbeau et balance son môme à la rivière. Elle n'avait plus de lait, ne pouvait donc plus l'allaiter, c'était impossible de le nourrir. Elle revient dans la rue et là, elle se met à danser. D'autres gens qui étaient dans des situations infernales comme elle, la voyant, se sont approchés et se sont mis à danser aussi. Cette danse est devenue contagieuse et tout le monde est rentré dans le sillage de Trophéa. Le problème était que les gens qui s'étaient mis à danser ne pouvaient plus s'arrêter. Ils dansaient nuit et jour et pendant des semaines, même les plus chétifs, les pieds en sang, cartilage apparent. Cette Madame Trophéa est bien réelle et au bout d'une semaine, il s'est avéré que 34 personnes se joignirent à elle et au bout d'un mois, près de 400.
William Shakespeare lui-même appellera cet événement la peste dansante. Cette histoire devrait être célébrissime en France, mais le clergé en a eu tellement honte qu'il a tenté de l'effacer le plus possible, ou en tout cas de la minimiser. Le clergé et le maire, justement, tentent d'arrêter cette terreur. Ils font appel aux médecins locaux, qui concluent que les danseurs sont victimes d'un afflux de sang trop chaud au cerveau. Les édiles devisent alors d'un traitement qu'ils jugent approprié, alors celle-là, elle est bonne, encore plus de danse. Ils ordonnent qu'un espace soit dégagé sur un marché aux grains et font ériger une scène près de la foire aux chevaux. Puis ils y font escorter les danseurs effrénés, convaincus que s'ils continuent à bouger de la sorte, ils finiront par se débarrasser du mal. Ils vont même jusqu'à engager des musiciens pour les accompagner. Ils continuent de virevolter sous la lumière crue du soleil d'été dans une scène étrange et diabolique que l'on aurait cru surgie de l'œuvre du peintre Jérôme Bosch. Dans les archives de la ville, un poème décrit ce qui se passe. Beaucoup de gens, par folie, se sont mis à danser jour et nuit jusqu'à en tomber évanouis. Plusieurs en sont morts. Les autorités comprennent qu'elles ont commis une erreur. Décrétant que les danseurs sont frappés par la colère divine plutôt que par un échauffement du sang, elles imposent une phase de pénitence, interdisent la musique et la danse pour le public partout à Strasbourg. Les victimes sont transférées dans un sanctuaire dédié à Saint-Vie, une grotte humide dans les hauteurs autour de la ville voisine de Saverne. Et quelques temps après, la plupart cessent de remuer. L'épidémie est terminée. Combien sont morts ? Un chroniqueur de l'époque affirme qu'il y a eu jusqu'à 15 décès par jour sans que ce chiffre ait été corroboré. Il est peut-être plus facile de déterminer ce qui a pu ou non causer cet étrange phénomène. On a longtemps considéré l'ergotisme comme un candidat potentiel. Ce dernier est lié à la consommation d'un champignon qui parasite le seigle ou l'orge et qui produit une substance proche du LSD, capable de provoquer de terribles hallucinations et de violentes convulsions. Vous savez, comme à Pont-Saint-Esprit en 1951, pas très loin d'ici. Mais il est peu probable que ces victimes aient pu danser pendant des jours. D'autres sources affirment que les danseurs étaient en fait des hérétiques. Mais la plupart des témoins attestent cependant que ces gens ne voulaient pas danser. Selon moi, l'explication la plus plausible est que les habitants de Strasbourg ont souffert d'un mal psychogénique de masse, ce que l'on appelait autrefois l'hystérie collective. À Strasbourg, au début du XVIe siècle, la situation est catastrophique. Les chroniques font état d'un surcroît de misère dû à des conflits sociaux et religieux, de nouvelles maladies terrifiantes, des récoltes catastrophiques et une hausse des prix des céréales. Et pour pallier à cette misère, les habitants ont décidé de tutoyer la mort dans un corps à corps désespéré. Alors quoi ? Qu'est-ce qu'on fait ? Alors on danse. Alors on danse.
Merci, Emily.
Avec plaisir.
Et donc, qu'est-ce qu'on prévoit pour le réveillon avec ta famille?
Un petit choucroute.
C'est parti. Allez, on va se faire une petite pause musicale et puis on revient juste après. Thank you. C'était Connectivity de Laure que vous retrouverez bientôt à ce micro, mais qui nous a offert cette composition et, je la cite, « Pour moi, la transe permet la connexion avec l'autre, avec l'état de flow, avec des états modifiés de conscience aussi. C'est ce que j'ai voulu exprimer dans ce morceau. Plein de bisous !» Alors, rappelons que Laure sera mercredi 13 décembre à la Ronceret à Saint-Laurent-de-Trèves, avec un voyage sonore feel good, soit une heure de cocooning sonore, assez différent de ce qu'on vient d'entendre puisqu'elle sera solo au violon, mais voilà, on vous invite à la rejoindre mercredi 13 décembre à la Ronceret. Si vous voulez les infos, c'est sur la page Facebook de la Ronceret. Le rendez-vous est pris. Et entrer en transe, entrer en résistance, je suis sûr que tu vas nous faire rimer ça, Christelle.
Oui.
allez, essaye.
Oui. Alors, quand j'ai su que le thème de cette émission ce soir était entrer en transe, j'ai forcément commencé, comme souvent, à chercher sur Internet des éléments qui auraient pu m'inspirer, afin de mener à bien ma chronique, qui, je le rappelle, met en lien le thème tiré au sort et la lutte en politique. La première chose sur laquelle je suis tombée en tapant « homme politique en transe », c'est ça.
Tu aimes taper les hommes politiques.
Parce que c'est notre projet.
Bon, autant vous dire que je n'avais aucunement envie de traiter ce personnage. Alors, vous êtes d'accord avec moi. Voilà. Le deuxième thème qui est ressorti et qui, ma foi, m'a paru vachement plus intéressant, fut les personnes transgenres en politique. Bon, j'ai juste modifié le thème en interprétant « entrer en transe » par « être trans » en politique. Bon, ça va, vous me l'accordez.
C'est validé.
Eh oui. Le combat pour l'égalité des genres et les droits des personnes transgenres est loin d'être terminé, on est d'accord. C'est pourquoi il est réconfortant de savoir que des politiciens trans existent déjà. Ce sont ces personnes qui comprennent parfaitement le combat que représente la vie d'une personne trans dans la société d'aujourd'hui. C'est pourquoi les politiciens transgenres doivent occuper leurs sièges respectifs en politique. Avec le pouvoir et la proximité qu'ils ont en termes de changement des lois, ils auront plus de chances d'apporter les changements nécessaires à notre chère société. Je vais donc donner quelques exemples de personnages politiques qui furent ouvertement élus transgenres dans le monde. On commence par Amanda Simpson, aux États-Unis, qui est ancienne secrétaire adjointe de la Défense pour l'énergie opérationnelle au ministère de la Défense. Au moment de sa nomination au poste de conseillère technique principale au Bureau de l'Industrie et de la Sécurité, en 2010, elle est devenue la première femme ouvertement trans nommée par une administration présidentielle. À Taïwan, Audrey Tang est probablement, Taïwan d'ailleurs, qui est probablement le pays le plus avancé en matière de droits LGBTQIA+, en Asie. C'est le seul pays du continent qui a légalisé le mariage homosexuel, quand même, il faut le rappeler. Le 1er octobre 2016, elle devient la première ministre trans au monde en accédant au poste de ministre chargé du numérique. Ensuite, aux Philippines, il y a Geraldine Batista Roman, qui est journaliste, femme politique, députée de la première circonscription de la province de Bataan depuis 2016. Elle est la première personne transgenre élue au Congrès des Philippines. Au Japon, c'est Ayako Fujigami, qui est membre de l'Assemblée législative. C'est la première personne ouvertement transgenre à occuper un poste au sein d'une assemblée préfectorale au Japon. Après les résultats de l'élection qu'elle a gagnée en 2019, elle fait une déclaration disant « Je veux rendre l'appareil à ceux qui m'ont soutenue en travaillant dur pour créer une société dans laquelle les personnes LGBT peuvent être actives. » En Belgique, Petra de Sutter est une professeure de gynécologie et une femme politique. Elle fait son coming out en public en 2014 et en 2020, elle intègre le nouveau gouvernement de Croo comme vice-première ministre et ministre chargée de la fonction publique et des entreprises publiques. Elle devient la première femme trans ministre en Europe en 2020. Et en France, me direz-vous ?
Ouais.
Alors, cherchons un petit peu.
En trans, tu veux dire ?
En trans, en France trans. Alors, au Sénat. Non. À l'Assemblée, non plus. Oui. Au ministère, encore moins. Ah si, pas au ministère. Il y a Marico. Vous connaissez Marico ?
C'est pas le FN ?
Presque. Elle est née le 27 octobre 1965 à Roubaix. C'est une femme politique, ingénieure et dirigeante d'entreprise française. Elle est connue pour être la première femme transgenre élue, attention, maire en France. En 2020, à Tilloy-les-Marchiennes. Tilloy-les-Marchiennes, vous connaissez Tilloy-les-Marchiennes?
Bah,
mais pas du tout. C'est dans le Nord. Comme d'habitude. C'est une commune de 550 habitants.
Wow.
Mais alors, qu'a fait cette première femme élue transgenre dans notre cher pays des droits de l'homme concernant les droits LGBT? Eh bien, pas grand-chose. Elle refuse même la qualification de militante de la cause LGBT. Elle soutient tout de même la gestation pour autrui lorsque la loi passe. Bon, en gros, on a encore du boulot, hein, en France. Parce que quand même, il ne faut pas négliger que la personne de personnes transgenres en politique est importante. Ces personnes-là sont la voix des personnes trans pour vivre dans un environnement sûr, juste et aimant. Sans politiciens transgenres, il sera plus difficile pour les personnes trans de vivre une vie sans marginalisation, sans violence et sans harcèlement.
Sans transition.
Sans transition, parce que...
C'est notre projet.
Manu, avec nous. Et ben voilà.
Merci Christelle. Nat, ça va être à nous.
À direct, là.
Ah bah direct.
Il n'y a pas de petite musique.
Mais on va avoir un jingle. Ça, mais
un petit jingle.
Et puis, allez, allez. Et puis sans transition.
Okay.
Article. La chronique. Qui est un tirguna.
Hautement intellectuel.
Si on t'entend, Nat, t'inquiète pas.
Non, non, mais... pas ça. Parler, comme je l'ai dit tout à l'heure, du chamanisme. C'est une pratique ancestrale présente dans de nombreuses cultures indigènes à travers le monde. Il implique souvent l'induction de transe, un état modifié de conscience où le chaman entre en contact avec le monde spirituel. Cette transe peut être atteinte de différentes manières, que ce soit par la danse, la musique, le chant, la méditation ou l'utilisation de plantes psychotropes comme l'ayahuasca. Les chamans utilisent ces rituels pour guérir, communiquer avec les esprits et explorer les dimensions invisibles de l'existence. Dans cet univers chamanique, l'art revêt une signification profonde. Les peintures, les sculptures, les chants et les danses ont souvent été utilisés comme des véhicules pour exprimer les visions et les expériences transcendantales des chamans. Ces créations artistiques ne sont pas seulement des œuvres esthétiques, mais des manifestations tangibles de la compréhension du sacré, de la nature et de la relation entre les êtres humains et le cosmos. Le chamanisme a également influencé de nombreux artistes contemporains. Des mouvements artistiques tels que le surréalisme, avec des figures emblématiques comme André Breton et Salvador Dali par exemple, ont exploré les territoires de l'inconscient, s'inspirant des visions et des rêves qui ressemblent souvent aux expériences chamaniques. Alors, si je vous parle de ça, c'est justement parce qu'en ce moment, et jusqu'au 26 mai, donc il y a un peu le temps d'y aller, le musée du Quai Branly, qui est le musée Jacques Chirac à Paris, je ne sais pas si vous connaissez, je vous en parle un peu à la fin, consacre une exposition à l'art chamanique, qui s'appelle « Vision chamanique ». Voilà. Cette exposition présente des visions plastiques et des productions artistiques suscitées par un breuvage hallucinogène préparé à base de l'ayahuasca, qu'on appelle aussi liane des morts en langue quechua. Cette plante est traditionnellement utilisée par les populations autochtones d'Amazonie péruvienne à des fins cérémonielles, spirituelles et thérapeutiques. On peut y voir des toiles de Pablo Amarango, un artiste péruvien dont l'œuvre était étroitement liée à l'art chamanique. Pablo Amarengo est un pionnier de l'art visionnaire. Il a ouvert la voie à toute une génération d'artistes. Dans une lettre à Luis Eduardo Luna, un anthropologue et chercheur spécialiste de l'ayahuasca, l'artiste disait « Dans les années 1959-1962, dans une petite maison au bord du Fanacha, un affluent du fleuve Ucayali, on avait l'habitude de boire l'ayahuasca tous les quatre jours. C'est là que j'ai pris conscience des apparitions visionnaires provoquées par cette plante aux effets extraordinaires. Il m'a été donné de voir de nombreuses apparitions de personnages tels que des rois, des reines, des empereurs et leurs cours, de nombreux royaumes aux multiples généalogies, des êtres d'une grande intelligence, d'une grande beauté, des jardins circulaires aux arbres touffus portant des treilles exubérantes aux fleurs colorées et parfumées, des oiseaux bigarrés dont les chants harmonieux captivent l'âme. Tous ces mondes inconnus offrent un spectacle jamais vu dans la vie terrestre. » Il est bien fumé la moquette quand même. Ces peintures sont imprégnées de symbolisme et de motifs complexes, illustrant des mondes spirituels, des êtres mythologiques et des paysages surréels. Ces œuvres n'étaient pas seulement des représentations artistiques, mais aussi des témoignages visuels de son voyage intérieur et de ses explorations spirituelles. J'ai quand même amené, comme à mon habitude, des petites images. Merci. Là. En bas, elle est petite, c'est celle de... Enfin, vous verrez, il y en a deux. Voilà. Alors, je ne sais plus où j'en suis. Alors, ces peintures capturaient la vision chamanique, je l'ai redit peut-être ça, non, du cosmos, révélant des couches profondes de la réalité, invisibles pour la plupart des gens. L'exposition, du coup, au Quai Branly, hein, s'ouvre sur une fresque spécialement exécutée pour le musée par un collectif de femmes artistes, Shipibo Konibo, installées en périphérie de Lima. Ça s'appelle le kéné. Le kéné, c'est l'art traditionnel du dessin qui orne les corps, mais aussi les objets, céramiques, textiles, bijoux, bois sculptés. Elles sont réputées pour leurs productions artistiques très esthétiques, les Shipibo Konibo. Elles sont environ 35 000 à vivre en Amazonie péruvienne. Leur art se caractérise par des motifs graphiques, géométriques, perçus dans les visions induites lors des rituels chamaniques. D'étranges et envoûtants dessins, composés d'un maillage de lignes, d'épaisseurs et de couleurs différentes, donnant une impression de mouvement. Certains y voient des nervures de feuilles, des ailes de papillon, la peau d'un serpent ou celle d'un jaguar. Les artistes affirment qu'avant de peindre, de broder ou de tisser, ils voient en esprit la composition sous une forme brillante et lumineuse. Toutes les œuvres ont en commun une grammaire colorée, l'exubérance des détails et la volonté de représenter un monde inaccessible autrement que sous influence. Avec l'émergence du tourisme chamanique, et oui, il y a un tourisme chamanique, très en vogue depuis la moitié du XXe siècle, une nouvelle iconographie liée aux visions chamaniques est apparue dans les années 1980. Elle est faite d'images figuratives, reproduites sur des toiles à l'attention d'un public principalement occidental. Celle-ci s'inspire de la mythologie, de la cosmologie et des modes de vie des populations autochtones de la région andine. L'art visionnaire jouit désormais d'une véritable reconnaissance internationale, comme en témoignent les toiles cosmiques de Robert Venosa et Martina Hoffman. Les œuvres les plus récentes de cette mouvance font la part belle aux nouvelles technologies, évidemment, comme l'installation du cinéaste Jan Koonen, une création en réalité virtuelle qui donne un puissant aperçu des visions induites lors d'une cérémonie chamanique. Voilà. Alors, je n'ai pas encore vu l'exposition. J'y vais au mois de janvier. Je ne suis pas non plus sûre d'être très fan de ce genre d'œuvres. Mais bon, j'adore le Quai Branly, par contre, le musée du Quai Branly. Je ne sais pas si vous connaissez, je le rappelle, qui est quand même un musée ethnographique à
Paris. Dédié au trophée de la colonisation, c'est ça ?
Alors là... Alors Marc, écoute. Non, mais exactement en plus. Mais tu connais Marc ? Tu l'as vu ? Tu l'as visité ?
Non.
Alors...
Tu connais Jacques Chirac ?
Voilà. C'est le musée, oui, effectivement, que Jacques Chirac voulait. Il est quand même extrêmement beau, ce musée. Rien que le bâtiment, c'est Novel hein, qu'il a fait. Et j'adore sa façade. Il est très connu pour cette façade végétalisée, qui est un mur végétalisé de 800 mètres carrés, le plus grand du monde à l'époque de sa réalisation en 2016. Donc, en vrai, c'est vraiment... En plus, il y a un mur, alors je ne sais pas, En fait, on est quand même sur l'avenue du Quai Branly, qui est quand même à côté de la Tour Eiffel, avec un bruit incroyable. Et quand on passe dans la cour du musée, vraiment, c'est y a le silence, quoi. C'est vraiment super bien fait. C'est beau. Et on y apprend plein de choses.
Mais j'irai un jour.
Voilà, hein. Vraiment. Je vous le conseille.
Parce que quand même, on a perdu les colonies.
Mais là, voilà.
Allez, tout de suite, Michel Sardou, le joli temps des colonies.
on revient au réveillon des Émilie.
Ouh, les lacs du Connemara, tout de suite. Voilà.
Merci Ned pour cette exploration en transe de l'art et du chamanisme. Mmh. Et on va refaire une petite pause musicale avant d'accueillir notre invité exceptionnel.
Surprise.
Thank you.
C'était Teardrop de Massive Attack, un peu de volupté dans cette émission consacrée à la trance. Entrée en trance ce soir dans Open Bar Tass. Et là, on a une invitée exceptionnelle. Merci Ben d'avoir croisé ton invité, de l'avoir amené avec nous sur ce plateau. Ça va être
quand je peux rendre service, c'est cool. Alors, rentrer en sens, c'est surtout qu'il se passe quelque chose.
Le monde m'a sur la tête.
Le monde m'a sur la tête.
Le monde m'a sur la tête. Mais nous, on retombe toujours sur nos pattes et bim.
Bon, alors, les copains, comme Léo est à la technique et qu'il y avait longtemps que j'avais pas fait une chronique, que le thème est génial. Merci beaucoup, le tirage au sort. J'espère qu'on aura le même tout à l'heure. Bon, j'ai ramené notre invité. Pardon, Marc, je vais marcher sur tes pattes bandes. Pardon, plate bandes.
Voilà, ouais, c'est bien. C'est
Véro Dombal, bonjour. Ah, du Aoum. On en a besoin, les gaz et les gazettes, d'ouvrir nos chakras. Il y en a un qui est en transe. Bon, c'est pas le seul dans le gouvernement, mais je les adore. Si toutes ces personnes ne gouvernaient pas la France, on pourrait dire qu'ils sont à la tête d'une énorme secte et que ça va finir par un énorme suicide collectif. Et au vu...
Mais en dansant.
Vu de la COP28 qui a lieu à Riyad, Madame Dombal, comment ça va? Ouais, bref. Je sais pas où vous en êtes, mais moi j'ai écouté Léonard Attal à la radio. Pardon, je dis Léonard, vous savez, celui qui a des idées de génie pour révolutionner le système scolaire. Je l'appelle Léonard parce que c'est vraiment un génie.
Plus d'exigences et des mesures fortes pour que les élèves réussissent mieux à l'école. Tout d'abord, aux primaires, où le ministre de l'Éducation entend déployer de nouveaux programmes plus clairs avec des manuels scolaires.
Ah, ça y est, les annonces. On est bon. On va avoir une école maternelle au lycée qui va marcher. On est bon, il est bon. Enfin, ministre de l'Éducation qui gère plus de profs, plus de manuels scolaires.
Enfin.
Non, mais non, il était temps quand même. Hein. Vous vous souvenez de la chanson de Renaud, là ? Il est lourd comme un cheval mort. Enfin bref, les manuels scolaires. Enfin, plus de cartables, plus d'enfants, plus de vie, plus de délégués, plus de frites à la cantine. Je cherche un jeu de mots avec Attal.
Atalaoum,
mais quel bonheur, je nage dans un délire. Le grand Atlas ne va plus s'appeler le grand Atlas, mais le grand Atal. Je suis fan. Nat, qui est avec nous, ne s'appellera plus Nathalie Thaïlandier, mais Nathalie Atalandier.
Ah ouais. Wow.
Tellement elle sera heureuse d'être prof, parce que Atal, il a remis les manuels scolaires, et pas n'importe quel manuel, non, les manuels Macron. Pardon, sinon. Et que c'est l'idée du siècle, du millénaire, et qu'un jour, quand il mourira, on l'enverra au Panthéon, et je l'entendrai déjà d'ici, entre ici, Gabriel, avec ton encyclopédie, tu as révolutionné la France en disant qu'il fallait des manuels scolaires à l'école.
Excuse-moi, Ben, mais j'appelle Maître Dong. Tous mes chakras sont en train de se refermer.
Ouais, comme ceux de l'éducation nationale, d'ailleurs. Bon, j'ai pas de chute, mais comme dirait l'autre Gugus, j'ai pas de programme non plus, pas de projet, n'est-ce pas, Macric? Un petit clin d'œil.
Macric et Macron, c'est pas mal, ça.
Yeah. C'est une bonne idée de mêler tout ça.
Ça m'a énervé, mais c'est pas mal.
Allez, est-ce qu'on ferait pas un bon Aoum tous ensemble? 1, 2, 3.
Aoum.
Sachant, ma chère Véro Dombal, que ton mec s'appelle Pierre. Voilà, celle-ci, elle est faite Pierre Dombal.
J'ai rien à faire.
Pour celles et ceux qui l'ont.
Pierre Dombal.
Ouais, voilà.
Ah oui. Non, mais excusez-nous. Moi, ça m'a mis quand même 3 secondes là. Ouais,
manuel et intelligence artificielle.
Grave.
Hein?
Ah ben, je...
Il t'en reparle dès le 14 décembre.
Grave. Ceci dit, les bambins, ouvrez des livres, même s'ils ne sont pas scolaires, ça va vous mettre
surtout
en transe, ça va faire taire les cons et ça va faire du bien à notre chère liberté. Et surtout, comme disait...
chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin. De peur que chacun sa route, chacun son chemin, passe le message à ton voisin.
Mais pas celui de la pierre d'Ombale.
Tonton David.
Exactement,
on est sur
ouais.
Un gros tonton David. Ouais,
voilà. Du réveillon.
Du bah oui. Réveillon.
Ah, parce qu'un indien dans la ville et tout,
voilà,
je suis parti dans
Thierry Lhermitte,
délire.
tout ça.
Exactement. Regardez, voilà. Ouais. Regardez un indien dans la ville.
Ça expliquera les
Naoum.
C'était Ben en transe dans Open ouais. Bartas avec Véro. C'était bien de t'avoir en plateau, Véro. Merci.
Ah, oui, eh bah, c'est rare. Hein, là, ouais. Il faut m'avoir au bon moment là, parce que là, il me l'aurait dit hier, j'aurais dit non. Et aujourd'hui,
mais aujourd'hui,
j'ai dit oui.
Voilà. Tu dis oui. Alors, avant de passer au tirage au sort et de savoir de quoi nous parlerons en 2024, est-ce que vous avez des suggestions de découvertes pour continuer la transe après cette émission ? Nat ?
Bah, moi, j'en ai déjà parlé, aller voir l'expo au Quai Branly. Hein ?
C'est bon pour le côlon.
J'en ai pas d'autres. Hein. Ouais, c'est bon pour les côlons.
Eh bien, écoutez, on va aller danser sur la pierre d'Ombale de ce pauvre Jean Tellet, quand même, qui est mort l'année dernière d'une intoxication alimentaire, ce qui est très triste. On le regrette. Et il a donc écrit « Entrée dans la danse » qui parle de cette transe à Strasbourg.
C'est dingue.
Qui est terriblement terrifiante. Voilà, donc il faut lire ce livre.
Ok. Moi, j'ai une suggestion de Laure, également, dont on a passé le morceau tout à l'heure. Et Laure nous suggérait de lire La Diagonale de la Joie de Corinne Sombrin.
La Diagonale du Vide.
Oui, j'ai
failli. Non, c'est une autre.
J'ai failli parler de ça. Ouais.
Et donc, c'est un récit initiatique sur elle, son apprentissage du chamanisme, au cours de deux décennies qui ont suivi l'expérience chamanique qui s'est muée hors de l'écosystème traditionnel tzatan en un extraordinaire voyage au cœur de la transe et de son expérimentation scientifique. Alors, c'est pas l'or, hein, c'est la quatrième de page, mais bon, ça vous donne une idée. Peut-être tu en sais un peu plus, Christelle ? J'ai dit que je te donnerais pas la parole, mais si, quand même.
Allez, on impose, là.
Oui, moi, j'ai lu, du coup, un de ses romans.
Quoi, tu as lu un livre, un manuel ?
Oui, non scolaire, de Corinne Sombrin, parce que je me suis un petit peu penchée là-dessus, ça m'a vraiment intéressée. Du coup, c'est la transcognitive auto-induite. Et enfin, donc, elle explique que dans ce roman-là, c'est pas le nom du roman, mais c'est la. En fait, elle a réussi à. Déjà, elle s'est découverte chamane, et elle a réussi à montrer aux scientifiques que la transcognitive pouvait être un moyen de soigner des maladies généralement psychiques grâce à la transe, mais sans prise de produits, uniquement avec une musique, avec de la musique. mais n'empêche que c'est pas mal. Et du coup, il y a plein de. Elle a fait plein de. Comment on appelle ça ?
Des trans ?
Non, pas de trans.
Des expériences ?
Non, pas des expériences.
Oh là là. Allez,
on a le visuel, on ça fait ça.
Attendez, mais on n'a pas joué, donc jouons.
Des colloques. Oui, voilà.
Bah,
qu'on peut regarder sur Internet. Où, voilà. Et d'ailleurs, à Paris 8, je crois, elle a ouvert une section à la faculté où on peut, dès la licence, donc après 3 ans, apprendre à devenir transeur. Donc, à entrer en transe et aussi à apprendre aux autres, faire entrer en transe les gens pour qu'ils soignent des pathologies souvent psychiques, psychologiques. Génial. C'est super intéressant. Bon, c'est hyper cher, malheureusement, mais vraiment, voilà, si vous avez l'occasion de vous pencher sur le sujet, si ça vous intéresse. Corinne Sombrin, S-O-M-B-R-U-N.
C'est exactement ça.
Voilà. Si la bibliothèque de Florac nous entend.
Et elle est musicienne.
À la base, elle était journaliste.
Et elle est journaliste et musicienne.
Et, ouais. Et chamane.
Ouais.
Et chamane.
Quelle femme.
Ouais.
Elle s'est transformée en loup.
C'est ça. Bon oui, oui, oui. Tout à fait.
Waouh.
Wow. Non, mais c'est très intéressant. Il y a un film.
On va faire une émission sur elle, je pense.
On va l'inviter, même.
Ah ouais,
ça sera trop cool.
Et moi, j'avais une recommandation d'une autre émission radio, désolé Radio Bartas, mais s'appelle Techno Music Non-Stop. C'est un podcast de la série documentaire de France Culture. C'est en 4 épisodes.
LSD.
Merci. Tu peux le redire, c'était
LSD.
Donc,
ouais, trop cool cette émission en plus.
Si tu m'entends, Maurice Chardot, si tu m'entends, Fabrice Drouel, on vous aime.
J'aime bien parce que t'as Bartas et en dessus.
Ah non. Il n'y a pas de hiérarchie. Non, mais du coup, je vous recommande quand même. Techno Musique Non-Stop, c'est 4 épisodes et les réalisateurs de l'émission explorent l'histoire du style, donc de la techno, du battement des usines de Détroit au renouveau des soirées de Charleroi. Tu le crois, Sabine ?
Ah non, ça.
C'est vraiment.
Toujours
c'est
le Nord, le Belge ressort.
Ah, les carolos.
Et voilà, c'est jouissif et éducatif. Enfin, c'est assez parfait. Ça donne envie de danser dans sa voiture. Et sans transition, ben je propose qu'on passe... Ah si, il y a une transition, Ben, tu voulais rajouter ?
Ouais, en fait, juste Riménor, je sais qu'elle nous écoute là ce soir. Et en fait, elles ont une de leurs potes qui fait un délire chamanique. Quand je dis délire chamanique, ce n'est pas du tout péjoratif. Au mois de février. Et du coup, j'attends le message de Rim. Et donc, on fera ça après la pause et après le tirage au sort. Mais voilà, ce sera au mois de février et c'est un beau truc qui se prépare.
Et à suivre sur Radio Bartas, de toute façon, il y aura des infos.
Ah ben, totalement. Et en tout cas, c'est vraiment un délire au mois de février, je crois, ça aura lieu. Et du coup, ce sera après la pause musicale et le tirage au sort et tout ça.
Oui, parce que maintenant, c'est le moment du tirage au sort. Alors, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais vu la présence de notre invité exceptionnel, on ne peut que lui confier cette main innocente pour choisir les deux thèmes potentiels de notre prochaine émission, donc de notre prochaine...
Allez, Ariel.
Alors, je pioche.
Je suis pas bien.
Alors, j'ai pioché le premier... c'est pas facile.
C'est pour
qu'il faut que je déplie, quand même. Et merde, je... Alors, la première... Vous pourriez faire des...
Mais...
C'est pas plus petit quand même.
Il y a des origamis dans l'enveloppe, hein, c'est pour ça c'est bon à déplier. Alors, on pourrait parler de...
Mortel Adèle.
Oh.
La première.
Mortel Adèle.
Eh ouais.
Nathalie, tu peux parler, on est à la radio. Hein.
Allez, on est en direct.
Nathalie nous dit des choses.
Un petit.
Tire un petit.
Attends,
Véro a tout sorti.
Moi, j'ai tiré un petit. On m'a dit tire un petit, donc moi, je tire. Cowboy ou indien? Alors,
cowboy, on a déjà fait. Retire-en un.
Oui, retire-en un.
Ah ouais, non, mais c'est bon.
Et c'est la fin d'année, c'est Merry Christmas.
Voilà. Au niveau de la. Ça, c'est bon, ça.
Ah.
Menteur.
Ah. Menteur.
Moi j'aime bien ça. Oui. Moi menteur ça j'aime bien.
Menteur.
Moi allez. Mortel Adèle ou menteur. Mortel.
Donc le mois prochain nous parlerons de menteur ou de Mortel Adèle et on a un morceau pour se décider. On vous retrouve tout de suite après le débat.
Voilà.
Oh,
Moby avec Porcelaine dans Open Bartas. Et donc, dans notre prochaine émission, alors, si vous n'avez pas suivi, si vous n'avez pas encore compris depuis un an le principe de l'émission, chaque mois, on tire au sort la thématique du mois prochain.
Du mois précédent.
Et c'est un autre concept, hein, ouais. Même ça marche ouais, trop bien.
Retour vers le futur.
Et donc, on avait le choix entre Mortel Adèle et Menteur, et le mois prochain sera Mortel Adèle.
Absolument.
Non, allez, bon.
Mais non.
Oh, c'était pourri.
Donc.
Parce qu'on est des menteurs.
Allez, concours de mensonges en 2024. On pourrait réinviter Emmanuel.
Je pense que Emmanuel.
C'est notre projet.
Voilà. On est bon là. Hein.
Oh, je sais pas, on peut en inviter quelques-uns. Ouais, je pense, c'est moyen.
Je crois qu'on a trouvé l'invité.
Du Darmanin, tranquillou.
Ouais. Ah, voilà. Tranquillou.
On a plein d'invités potentiels.
On a tous quelque chose à dire sur.
On a tous quelque chose en nous de Tennessee.
Non, ça c'est vrai. Oui, ça c'est du mensonge.
Ça c'est vrai.
Et l'idée, c'est qu'on pourrait, à la prochaine émission, se demander qui est le plus gros menteur, la plus grosse menteuse.
De Florac ?
Pas de Florac.
Radio
Faisons-le entre nous. Ouais.
Et là, ça s'allume, les lumières, bam, tout le monde écoute.
On invite le préfet ?
On va mettre ça au point.
Ah merde.
Et c'était donc Open Bartas. Bon courage pour les fêtes, hein, on vous retrouve en 2024.
Bon courage, oui. Entrez en transe pour les fêtes, quand même.
Bah
putain, et avec ça.
Transons un peu.
Pas
là.
Pour Noël, mais pour les fêtes de le 31, la nouvelle année, entrez en transe.
Et puis, si vous voulez, il y a toujours le podcast d'Open Bartas à réécouter en famille le 24 décembre ou le 31 décembre, alors que vous voulez, sur radiobartas.net. Puis parfois c'est rediffusé le mercredi, parfois le samedi, je ne me souviens jamais des horaires.
Moi non plus.
Bah, la prochaine c'est samedi dans 10 jours en fait, à 16h.
Voilà. C'est noté. Et au micro, donc pour cette émission, nous avions Émilie, Nathalie, Christelle, Véro, merci Véro, Ben, Léo à la technique, bravo Léo.
Joli
baptême du feu.
Ouais.
Et rendez-vous en 2024.
Il y avait aussi Marc qui parlait quand même.
C'est vrai qu'on avait oublié Marc Counet.
Désolée, moi je suis pas de l'émission, donc je suis l'invitée.
De Marc.
Surprise.
De
Nathalie, je t'ai pas entendu quand il t'a dit merci Nathalie.
Ah, tu veux que je fasse quoi?
Tu veux que
je fasse quoi?
Non.
Bon, je crois qu'il est temps de terminer cette émission.
Je pense surtout qu'on va laisser les.
Merci Marc. Et bon appétit à tous.
Et Cric, yes.
Et
mon ami Ben là qui est tout rouge là.
Et on termine avec une petite dédicace à Miley et Alice, tant qu'à faire. Un petit morceau issu de la BO du Rocky Horror Picture Show.
Yeah, parfait.
Et là, c'est au technicien de.
Well, Vanessa Butler is someone.
Just a moment, Janet. We don't want to interfere with their celebrations.
This isn't the Junior Chamber of Commerce, Brad.
They're probably foreigners with ways different than our own. They may do some more folk dancing.
Look, I'm cold, I'm wet, and I'm just plain scared.
I'm here with nothing to worry about.
How'd you do, my? See, you've met my faithful hand in hand. He's just a little broad guy, because when you knocked, he thought you were the candy man. Don't get strung out by the way I look. Don't judge a book by its cover. I'm not much of a man by the light of day, but by night I'm one hell of a lover. I'm just a sweet transvestite from transsexual Transylvania. Let me show you a rhyme, maybe play you a sign. You look like you're both pretty groovy. Or if you want something visual that's not too abysmal, we could take in an old Steve Reeves movie.
I'm glad we caught you at home. Could we use your phone? We're both in a bit of a hurry.
Right.
We'll just say where we are, then go back to the car.
Pleasure to meet you, Dr. Fenton.
We don't want to be any worry.
Well, you got caught with a flat world. How about that? Well, babies, don't you panic. By the light of the night, it'll all seem all right. I'll get you a satanic mechanic. I'm just a sweet transvestite from transsexual Transylvania. Why don't you stay for the night?
Night.
Or maybe a bite.
Bite.
I could show you my favorite obsession. I've been making a man with blonde hair and a tan, and he's good for relieving my tension. I'm just a sweet transvestite from transsexual Transylvania. Hey, I'm just a sweet transvestite from transsexual Transylvania.
Open Bartas.
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 Open Bartas.